L'écouté sirot chalekhav bet, sira sur béar bechokotai. Alors le Rami, il va rappeler ici quelque chose qu'il a déjà dit souvent, c'est que quand on va lire deux parashiot ensemble, ça veut dire qu'il y a forcément un lien entre les deux. Et très souvent d'ailleurs, on voit que même la fin de la première paracha et le début de la deuxième, on va la lire ensemble dans la même montée à la Torah, avec la même bénédiction. Donc ça veut dire que les deux parashiot, elles ont forcément un lien commun, un point qui va les unir l'une avec l'autre. Et ici, on a une grande question, puisque les deux parashiot Béar et Béchokotai, a priori, elles ont un message différent. Quand on dit Béar, sur la montagne, ça a une idée de grandeur. Ça vient nous enseigner qu'il y a parfois où il faut être fier, il faut être fort, il faut savoir surmonter les épreuves, il faut être capable de s'affirmer. Toujours dans le cadre de la Torah, mais c'est important. Et Béchokotai, ça veut dire c'est dans mes décrets. Les décrets, c'est les mitzvot qu'on ne va pas forcément comprendre et intellectualiser. Et du coup, on va les appliquer essentiellement avec soumission à Dieu, malgré qu'on ne les comprenne pas. Donc on a Béar qui est quelque part un peu la fierté, et Béchokotai qui est l'humilité. Et comment les deux, elles peuvent marcher ensemble? Alors pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre déjà pourquoi la première paracha, elle s'appelle Béar. On sait que les noms des parachutes sont aussi très importants et qui nous délivrent un certain message. Pourquoi cette paracha s'appelle Béa? A priori, l'essentiel ici, c'est le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, pas juste sur le mont. Ici, on a oublié l'essentiel. D'ailleurs, il y a même certains endroits où on va dire c'est la paracha de Béar Sinaï. On mentionne les deux mots. C'est vrai qu'il y a plein de parachutes qui ont deux mots. Mais cette paracha, on a dit un seul mot, Béar. Sur la montagne, sur le mont. Et on ne dit même pas lequel. C'est le mont sur lequel les Juifs ont reçu la Torah, c'est ça le plus important, c'est le mont Sinaï, il faut le dire. Et ici, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que on nous enseigne que pourquoi la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, parce que c'était la montagne la plus petite, la plus humble. Et ici, on a une question, si tu veux souligner la qualité de l'humilité, il faut donner la Torah dans une vallée. Si tu veux donner la Torah sur une montagne, alors c'est que tu cherches à montrer la fierté, la grandeur. Mais ici, on voit qu'on a fait le lien entre les deux, parce qu'on a besoin des deux. C'est vrai qu'il faut de l'humilité, c'est vrai qu'il faut être humble, c'est très important, mais il ne faut pas pour autant se laisser marcher dessus. Il faut aussi avoir une certaine fermeté, une certaine fierté qui va nous permettre d'avancer, une certaine estime de soi qui nous permet de faire des choses constructives, de surmonter les difficultés, les épreuves et d'avancer dans la vie. Donc il faut les deux, mais l'essentiel ça reste quand même l'humilité. On nous dit qu'on a le droit d'avoir un petit peu de fierté, un petit peu d'orgueil bien placé pour avancer et pour des bonnes raisons. Mais l'essentiel, dans le fond, ça doit quand même rester l'humilité. Donc ici, l'humilité, c'est représenté par quel mot? Par le mot Sinaï. Sinaï, ça vient du mot Sné. Le Sné, c'est un buisson. C'est le plus petit des arbres. Donc ici, l'essentiel aurait dû être, l'accent, il aurait dû être mis sur le mot Sinaï. Et on a complètement enlevé ce mot, on a juste gardé le mot Béar, sur la montagne. Alors, pourquoi? Alors, pour bien comprendre ça, il faut déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'humilité. Quand on parle d'humilité, c'est une humilité vis-à-vis de Dieu. Quand on comprend la grandeur de Dieu, alors on a un sentiment d'humilité envers lui. Et quand on parle de la véritable humilité, c'est quelqu'un qui il ne va même pas sentir qu'il est humble. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va dire « Regardez-moi, je suis humble. Regardez-moi, je suis soumis à Dieu. Je suis même plus soumis que toi. » Alors on comprend bien que cette personne-là, elle ne va pas être véritablement humble, véritablement soumise à Dieu, c'est impossible. C'est vrai qu'elle se soumet dans ses actes, dans ses paroles, peut-être même dans ses pensées. Mais on voit clairement qu'il y a deux choses. Il y a lui et il y a Dieu. Alors que celui qui est véritablement soumis à Dieu, celui qui est véritablement humble, il ne ressent même plus son humilité. Lui et Dieu ne font plus qu'une seule chose. On voit complètement Dieu à travers lui. On ne voit pas quelqu'un qui est annulé à Dieu, quelqu'un qui est humble devant Dieu. On voit Dieu directement. On ne voit même pas qu'il y a un effort de soumission, un effort d'humilité. C'est naturel, c'est évident. Pour comprendre ça, le rabbi, il explique que quand quelqu'un va envoyer un émissaire, alors il y a trois niveaux. On nous dit que l'émissaire, il est considéré comme celui qui envoie, et c'est lui qui prend sa place. Mais il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est de dire celui qui va envoyer l'émissaire, il lui donne l'autorisation et la force de faire quelque chose à sa place. Mais quand l'émissaire, il fait quelque chose, c'est son action à lui. Le deuxième niveau, c'est quand même dans l'action, c'est pas l'action de l'émissaire. L'émissaire, il est juste transparent, c'est l'action de celui qui l'a envoyé directement. Par contre, une fois qu'il a terminé sa mission, l'émissaire, il a sa propre vie, il a sa propre existence. Et le troisième niveau, c'est quand l'émissaire et celui qui l'a envoyé ne font qu'un. Malgré tout, même ce niveau-là, tous ces niveaux-là, les trois, mais même le plus haut, il nous laisse percevoir qu'il y a deux choses. il y a celui qui renvoie et il y a l'émissaire. Au moment de l'action, au moment de la mission, et même un petit peu à côté, mais pas dans tous les recoins de la vie, c'est les deux, ils font un, mais comme deux choses qui sont collées. On arrive à distinguer l'une et l'autre. C'est pas que les deux se sont complètement mélangés, les deux ne font pas un à 100%. Alors que le serviteur, il est complètement annulé devant son maître. Il n'a plus du tout d'existence. Lui et le maître ne font plus qu'un. C'est-à-dire que quand c'est lui qui va faire quelque chose, c'est le maître qui va agir à travers lui. Lui n'est que le miroir de son maître. Il est la prolongation de son maître. Et ça, c'est le niveau de soumission, le niveau d'annulation le plus haut qu'on peut avoir envers Dieu. Et d'ailleurs, on nous dit que le serviteur du roi est un roi. Et c'est pour ça que si on voit un serviteur qui va commencer à s'emporter contre quelqu'un, qui va commencer à agir de manière un peu ferme, un peu osée, à aucun moment on va se dire que ça vient de son propre ego. Comme on sait que c'est quelqu'un qui n'existe pas, c'est quelqu'un qui n'est que la prolongation de son maître. Même lorsqu'il va avoir ce comportement, on sait que ça ne vient que du maître. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne peut pas être autrement. Donc même dans les moments où il va avoir une certaine forme de fierté, une certaine forme d'orgueil, si on peut dire, on sait que ça ne provient pas de son ego et ça ne provient pas de ses mauvais attributs. C'est uniquement la volonté et la prolongation du maître. Et c'est exactement la même chose pour le nom de la paracha. On arrive à un certain niveau où quand on dit Béar, le mont, la montagne, on n'a même pas besoin de préciser. Quand on a un niveau d'annulation à Dieu tellement fort qu'il n'y a aucun doute que même quand on va s'élever, Ar, la montagne, Béar, on va s'élever, on va avoir un peu de fierté, un peu d'orgueil, il n'y a aucun doute que c'est uniquement pour le bien, uniquement la volonté de Dieu. Si on a besoin de préciser Sinaï, le Har Sinaï, l'élévation mais avec l'humilité, si on précise qu'il y a une humilité, ça, c'est comme si tu disais, j'ai ma propre existence, j'ai mon ego, mais je suis en train de l'annuler, comme le premier niveau qu'on a vu. C'est pas ça ici. C'est tellement évident, on est au niveau le plus haut. C'est tellement évident qu'on est à un niveau d'annulation parfaite, qu'on n'a même pas besoin de préciser Sinaï. Dès qu'on dit Béar, automatiquement, comme ce serviteur qui fait preuve un peu d'orgueil, il n'y a aucun doute que ça ne vient pas de lui. De la même manière, dès qu'on dit Béar, tout de suite on sait que c'est quand même le niveau d'élévation le plus haut, le niveau de l'humilité la plus haute. Donc d'abord on a Sinaï, ça c'est le premier niveau. On va dire Sinaï, c'est l'humilité et c'est tout. Ça c'est quand on commence le service de Dieu. On a encore un ego à travailler, on a encore des mauvais traits de caractère. Donc si on commence à avoir de l'orgueil, si on commence à avoir de la fierté, ça peut venir d'un mauvais trait de caractère et ça peut nous amener à quelque chose de négatif. Donc là, on nous dit non, que l'annulation, que l'humilité. On dit Sinaï, le Sinaï, sans parler de montagne. Ça, c'est comme le premier niveau où l'émissaire, il est envoyé, mais l'action qu'il va faire, c'est sa propre action. Il est soumis, mais c'est sa propre action quand même. Il a quand même une existence qui est assez forte. Ensuite, le deuxième niveau, on va dire Har Sinaï, le mont Sinaï. On commence à parler de montagne. Quand tu as commencé à travailler un peu ton ego et tes mauvais traits de caractère, alors tu t'es déjà un peu raffiné. Et on sait que tu as une certaine humilité qui règne en toi. Et donc, quand tu vas avoir de la fierté ou de l'estime de toi, on sait que ce n'est pas uniquement l'émanation d'un mauvais trait de caractère, c'est quelque chose qui va servir la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose qui va être dans le cadre du service de Dieu. Et donc, ça va être positif. Mais ici, on a quand même besoin de préciser Har Sinaï. On précise quand même l'élévation, mais l'annulation. Parce que c'est vrai, il y a de l'humilité, mais c'est pas encore ancré profondément en toi, au point qu'il n'y ait que ça chez toi. Ça, c'est le deuxième et le troisième niveau de l'émissaire. On a vu quand l'action elle-même, c'est celui qui l'a envoyé, qui est considéré comme si c'est lui-même qui avait accompli cette action, ou alors comme si l'émissaire et celui qui l'envoie sont exactement les mêmes. Il y a déjà un niveau d'humilité très fort, mais encore l'existence de la personne. Il peut encore arriver à dire, c'est moi qui suis humble, c'est moi qui suis soumis. Et ensuite, on a le niveau le plus haut, c'est on dit même plus Sinaï, on dit que Har Béar. C'est-à-dire que dès qu'on dit ça, ça c'est le niveau du serviteur où on sait qu'il n'y a aucun doute que c'est uniquement la prolongation de son maître. Il n'y a même pas besoin de préciser Sinaï, tellement c'est une évidence que même cette élévation, elle est que dans l'humilité. Et malgré que ce soit un niveau qui nous paraisse extrêmement élevé, le rabbi vient de dire ici que c'est quelque chose qui concerne chaque juif. On dit que chaque juif est le fils du roi, donc est un roi. Chaque juif est un roi, chaque juif est une montagne. Ah! Et tout son orgueil, toute sa fierté ne provient que de son âme divine, qui est une parcelle de Dieu. Chacun a la possibilité d'utiliser cette fierté dans les bonnes choses. Et justement, on nous rappelle, le rabbi rappelle ici ce que le rabbi précédent il disait, que notre âme n'a pas été amenée en exil, c'est que le corps. Et que tout ce qui concerne notre Torah, notre religion et toutes nos coutumes, personne ne pourra nous forcer à quoi que ce soit. Et même si c'est vrai, on doit respecter la loi du pays. Quand ça touche au judaïsme, alors il faut se comporter comme un roi, il ne faut pas avoir peur, il faut rester ferme et fier. Parce qu'on est des rois, on est des fils du roi, et on ne peut pas se départir de cet honneur. Puisque ce n'est pas notre honneur à nous, c'est l'honneur du roi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, sur lequel on ne peut pas faire de concession. C'est l'honneur de Dieu, ce n'est pas nous. Et maintenant, on comprend le lien avec Birukotai, Béar et Birukotai. Birukotai, c'est les décrets, c'est les misotes qu'on ne comprend pas forcément, qu'on va accomplir avec humilité, avec soumission à Dieu. Maintenant qu'on vient de comprendre que Béar, c'est aussi la perfection de l'humilité, on comprend que ça va bien avec Birukotai. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ici, pour le dire le mot décret, on ne dit pas Xéra. Xéra, c'est juste quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais Birukotai, ça vient du lashon, ça vient du mot Hakika, ça veut dire gravé. Quand on écrit quelque chose, l'encre, elle colle au parchemin, mais elle ne fait pas un avec lui. Quand on grave quelque chose dans une pierre, la pierre et l'écriture ne font plus qu'un. L'écriture n'existe même plus par rapport à la pierre, il n'y a que de la pierre en vérité. Et c'est pour ça qu'on utilise ce mot ici. On ne dit pas qu'il va y avoir un décret, et donc on va se forcer à l'accomplir même sans comprendre. On est en train de dire qu'on va l'appliquer tellement naturellement, quand l'humilité elle est parfaite, et qu'elle nous pénètre parfaitement, on va l'accomplir de manière toute naturelle. On ne va pas avoir besoin de se forcer pour ça. Et c'est pour ça que pour les décrets, on dit tu n'as même pas le droit d'y réfléchir. Mais c'est étonnant, on sait que dans la Torah, on nous apprend que comme on a un cerveau, on doit l'utiliser. On doit comprendre le maximum qu'on peut comprendre, même dans les décrets qu'on ne comprend pas. Alors ça veut dire qu'il ne faut jamais remettre en cause la pratique. Et une fois qu'on commence à pratiquer, là on peut commencer à questionner et à comprendre. Mais sans remettre en cause le fait qu'on va faire ou ne pas faire. Et sans mettre d'ordre en disant ça je ne comprends pas, donc c'est moins important. C'est ça que ça veut dire. Mais bien sûr qu'il faut tout comprendre. Il faut tout essayer de comprendre. Au maximum de notre possibilité. De la même manière que cette écriture qui est gravée dans la pierre, qui n'a pas d'existence propre à part la pierre, ce juif qui est parfaitement humble devant Dieu, il n'y aura aucun paramètre, ni extérieur ni intérieur, son caractère, ses attributs, etc., qui vont l'empêcher de s'unir à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et quand on regarde le contenu des deux parachiotes, on voit que dans Birukotai, on parle de la récompense et de la punition des mitzvot. Si on est tellement humble et tellement soumis à Dieu, pourquoi on nous parle de récompense? C'est assez étonnant. Et on comprend que quand on est à ce niveau parfait d'humilité, la récompense, elle ne vient pas en tant que quelque chose de personnel qui va être un profit pour nous. Elle vient nous montrer et nous dévoiler à quel point Dieu est bon, à tel point que sa bonté va s'exprimer dans chaque chose, même les choses les plus matérielles.